J'ai trouvé plusieurs exemplaires d'un livre poussiéreux dans le grenier de notre maison de famille à Saint-Malo. Souvenirs de Brousse, de Marc Simon. Mes oncles racontaient qu'à chaque poste où il était nommé, bon papa avait coutume de contracter un mariage noir avec une belle indigène.
Le ventre noué, je découvre la manière dont on relatait les unions entre Africaines et Français pendant l'occupation coloniale. En lisant le blog d'un certain Stéphane Olry, je découvre son compte-rendu de sa lecture des souvenirs de Brousse. Le livre avait été écrit par son arrière-grand-père, Marc Simon. Nous avons le même ancêtre. Il est donc mon cousin.
D'un côté, il y a de la souffrance, et de l'autre, de l'embarras. C'est pas tout à fait la même chose.
Le bazar.
Le bazar.
Bienvenue dans Joyeux Bazar, le podcast de la double culture. Je suis Alexia Sena et je suis très fière de vous annoncer que Joyeux Bazar a été récompensé au Paris Podcast Festival. D'ailleurs, si vous aussi vous appréciez ce podcast, eh bien, c'est le moment de laisser des étoiles ou un commentaire dans votre appli. À part ça, eh bien, c'est parti. Chères auditrices, chers auditeurs, aujourd'hui, je vais prendre des risques. Je vais essayer de vous emmener dans un tiroir à double fond, dans un labyrinthe, avec l'objectif de ne pas m'y perdre moi-même. On va cheminer ensemble entre une histoire qui se passe sur scène et l'histoire des comédiens dans la vraie vie. On va cheminer entre la grande histoire d'une part, avec un H majuscule, un colonial notamment, cette histoire, celle des livres, des musées, et d'autre part, la petite histoire des vrais gens dans la vraie vie. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais de toute façon, c'est lancé. La bonne nouvelle, c'est que pour ce faire, je ne suis pas seule. Marisa Nyandao Di Simon et Stéphane Olry sont comédiens. Ils ont écrit et joué ensemble une pièce qui s'appelle « Les petites épouses des Blancs, histoire de mariage noir », que je suis allée voir au Palais de la Porte Dorée il y a presque un an. Et c'est une pièce qui me hante depuis. Marisa Nyandao Di Simon et Stéphane Olry ont accepté de venir parler de la pièce et un peu d'eux. Merci à vous et bienvenue.
Merci.
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 Bonjour.
Est-ce que je peux vous demander de lire le début de la pièce, qui est un début un peu tronqué, je le dis à l'attention des personnes qui nous écoutent et qui, j'espère, iront voir la pièce. Donc je l'ai un peu raccourci.
L'Afrique, c'est loin. C'est ce qu'on disait dans ma famille. L'Afrique, c'est loin. On ajoutait, et puis, c'est il y a longtemps. Mon arrière-grand-père s'appelait Marc Simon. Dans la famille, nous l'appelions Bon Papa. Ce surnom lui aurait été attribué par les indigènes en Afrique. J'ai trouvé plusieurs exemplaires d'un livre poussiéreux dans le grenier de notre maison de famille à Saint-Malo. Souvenirs de Brousse, de Marc Simon. Marc Simon a porté la mission civilisatrice de la France. Il a creusé des puits et des canaux d'irrigation pour les indigènes. Passionné d'agronomie tropicale, il apprend aux indigènes à acclimater le cacaoyer à l'Afrique. Après 20 ans de brousse, Marc Simon revient en France auprès de sa femme et de ses enfants. Il fonde alors une florissante affaire d'importation de cacao. Lors des dîners de famille, au dessert, mes oncles racontaient qu'à chaque poste où il était nommé, bon papa avait coutume de contracter un mariage noir avec une belle indigène. À son départ, il avait soin de demander à un collègue de faire porter à la délaissée quelques verroteries pour la consoler. Mes oncles rigolaient, sacré bon papa. Mes tantes soupiraient, pauvre bonne maman. Elles ajoutaient, heureusement, il a eu la décence de ne pas reconnaître les enfants de ces mariages noirs.
Le ventre noué, je découvre la manière dont on relatait les unions entre Africaines et Français pendant l'occupation coloniale. Les Français nommaient les concubines africaines des petites épouses et appelaient les concubinages avec les Africaines des mariages noirs. Les Africains n'avaient pas de mots pour ça. En lisant le blog d'un certain Stéphane Olry, je découvre son compte-rendu de sa lecture des souvenirs de Brousse. Le livre avait été écrit par son arrière-grand-père, Marc Simon. Nous avons le même ancêtre. Il est donc mon cousin. J'appelle le numéro de téléphone apparaissant à la rubrique « Contact ».
Merci. Comment vous expliqueriez à quelqu'un croisé dans la rue ou à quelqu'un dans un podcast, comment vous expliqueriez de quoi parle cette pièce? Qu'est-ce que vous diriez?
Bon, ben voilà, c'est le fruit d'une rencontre avec Marisa. En fait, avec Marisa, on se connaît depuis longtemps, mais on n'avait pas vraiment échangé sur ce sujet. Et elle m'a fait lire les mémoires de Bruce de son grand-père, arrière-grand-père, Marc Simon. Et elle était très choquée par le fait qu'il est question absolument nulle part dans le livre de son arrière-grand-mère, qui était une Dahoméenne, avec qui Marc Simon aurait vécu au moins 2 ans et qui lui a donné 2 enfants. Le livre n'en parle absolument pas. Et ça choquait beaucoup Marisa, et je lui ai dit oui, mais moi ça m'étonne pas du tout, parce que dans ma propre famille, mon propre arrière-grand-père avait aussi apparemment une ou plusieurs petites épouses, et ma foi, il en parlait jamais, et c'était une sorte de secret de famille, secret de polichinelle, c'est le cas de le dire, c'est à la fois tout le monde le savait, mais on n'en parlait pas. Un des descendants de notre famille se présentait, tout le monde serait très embarrassé.
Ouais.
Je comprends. Juste pour dire que c'est un sujet sur lequel moi, j'aurais jamais travaillé seul.
La question ne se posait pas ?
Parce que des récits, en fait, de l'arrière-grand-père, nous, on en a plein dans la famille. Il avait une île, il plantait du cacao, l'île s'appelle l'île aux perroquets, ça fait rêver, c'est très exotique. Mais qu'est-ce que j'allais écrire ? Ce qu'on racontait dans ma famille, des histoires exotiques, pittoresques. En fait, je peux juste dire que ça fait longtemps que j'avais envie de travailler sur le sujet, puisqu'en fait, c'est la base de mon travail, c'est de travailler à partir de matériaux documentaires. Et j'ai pas mal fait de spectacles sur le passé de ma famille, mais cette branche coloniale en Afrique... seul, j'aurais pas été, j'avais ni l'envie ni la légitimité pour le faire, voilà.
Et Marisa, comment vous
dirais que c'est le récit d'une histoire familiale liée à la colonisation, avec pour point de départ des recherches sur mon passé familial.
Alors, vous nous avez raconté, Stéphane, comment la pièce est née. D'une conversation entre Marisa qui venait découvrir une partie de son histoire familiale et qui était plutôt en colère, si j'ai bien compris, et vous qui étiez j'ai l'autre côté de ta pièce à la maison, si tu veux. Comment s'est intervenu ça dans l'histoire d'amitié qui vous liait, qui préexistait en fait? Vous connaissiez déjà, puis il y a ce truc qui tombe et vous vous retrouvez de chaque côté, hein, comme je disais, d'une ligne.
On se questionnait l'un l'autre parce que je pense qu'on était curieux de pouvoir entendre ce qui se passait dans la famille de l'autre, dans l'autre camp, entre guillemets. Il y a plein de choses que je ne savais pas sur cette période coloniale, parce que déjà, elle nous est pas apprise. Et puis, je pense que dans ma famille, mon papa et mes oncles, enfin la génération de mon père, pour plein de raisons, ils n'ont pas envie d'en parler. Par contre, quand on commence à chercher, assez facilement, juste en se baladant sur Internet, on découvre des choses abominables. Et donc, c'est très difficile de ne pas se mettre en colère. Donc, Marc Simon, c'était un colon qui est arrivé très jeune. Donc, il a commencé par le Bénin, qui était le Dahomey à l'époque. Ensuite, il est allé en Côte d'Ivoire, au Soudan français, donc au Mali. Lui, il vit sa grande aventure, en fait, comme beaucoup. Et il adore les Africains, en fait. Il trouve qu'ils sont formidables. Ils ne sont pas fut. Il y a beaucoup de choses à leur apprendre, mais en fait, c'est un bon terreau, quoi. Voilà,
c'est passionnant.
C'est passionnant. Et donc, c'est insupportable, en fait. Et en tout cas, je suis hors de moi quand je lis ce livre, et encore plus quand donc, je découvre... pas mal de documents précisément sur les mariages dits noirs, donc sur les mariages qui n'étaient évidemment pas des mariages, ou alors très rarement, ça pouvait arriver. Hein. Il y avait aussi des histoires d'amour et des mariages officiels, etc. Ça arrivait bien sûr. Mais là, ce qui m'intéressait, c'était ces unions entre colons français et africaines qui avaient laissé des enfants. le plus souvent non reconnue. Il y a toute une phase où je suis hors de moi et où nos discussions qui restent passionnantes, je pense, deviennent un peu pénibles pour Stéphane, je ne sais pas. Et puis, en fait, on a rencontré Charles Dy, qui est un ethnopsychiatre, voilà, et qui nous a beaucoup aidés, en fait, tout au long de... Enfin, peut-être pas au début, mais une fois qu'il est intervenu, pour justement trouver une façon de s'entendre et voilà, comment ma colère pouvait ne pas interférer, et puis qu'on puisse continuer à avancer.
Dans la pièce, on entend, Marisa, la voix de votre père, et qui raconte, donc lui, il a réussi à retrouver la trace, dans le spectacle, hein, il a réussi à retrouver la trace de son grand-père, mais que ce dernier l'a chassé assez sèchement. Hein. Et il vous dit aussi, toi, tu ne comprends rien à l'Afrique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Qu'est-ce qu'il veut dire ?
Ça veut dire, c'est une phrase que j'ai entendue toute mon enfance en allant chez moi au Mali, voilà, au Mali où j'ai aussi de la famille en Côte d'Ivoire. Bon, je crois que ça veut dire, tu n'as pas été élevé dans nos codes, voilà, tu n'as pas été élevé dans nos codes, donc tu crois comprendre mais tu ne comprends pas, tu n'es pas vraiment à ta place, et peut-être que si tu étais... Si tu avais vraiment la culture, peut-être tu poserais pas ces questions. Voilà, c'est ça que j'ai entendu. Après, je pense pas qu'il avait raison. Je pense que c'est une histoire de génération et pas de culture. Mais je pense que lui, c'est comme ça qu'il le ressentait. C'est-à-dire ces questions qui parfois devenaient très précises. Et dans les gens que je connais... au Mali, d'ailleurs, je l'ai ressenti ensuite, aussi bien avec mes oncles, etc. C'est-à-dire, quand on pose des questions, on peut en poser 3-4, et normalement, si on nous dit non, on arrête. Parce que c'est un respect, et moi, j'ai continué. Donc, c'est « Ah bah oui, mais c'est parce que c'est vrai que t'es pas d'ici ».
Il y a cette photo dont on parle dès le début de la pièce. Hein. C'est Stéphane, je crois que c'est vous qui parlez en premier de cette photo-là, et vous dites la photo représente une jeune indigène allongée sur une natte. C'est une photo qui a toujours été posée sur la cheminée de votre famille. Et on entend dès le début de la pièce une divergence entre vous deux sur le fait de montrer ou pas cette photo au public. Ce qui pose... C'est juste une phrase, hein. C'est Marisa qui vous interrompt en disant « je vous demande de ne pas la montrer », et vous qui dites « bah, c'est pas ce qu'on s'était dit ». Mais ça, je trouve que ça pose d'emblée le fait que ce mariage noir, il n'a pas le même rôle, le même sens, le même poids dans vos familles respectives.
De toute façon, on n'a pas la même histoire. Effectivement, on n'a pas du tout la même perception. Et effectivement, donc, on a eu des débats... sur l'histoire de la photographie, en fait, on faisait avec Marisa, on avait convenu avec le Tête de la Poudrerie à Sevran, qui produisait le spectacle, on avait convenu de faire des rendez-vous de compte-rendu d'enquête, parce qu'on a aussi fait toute une enquête en France, à Sevran, sur cette mémoire des enfants métis, ou du moins autour du sujet. Mais par contre, moi, ce que je n'avais pas mesuré, c'était la charge émotive qu'il y avait dedans. Et donc, on s'est posé la question, quand on a fait le compte-rendu d'enquête, on a ce document, est-ce qu'on le montre, est-ce qu'on ne le montre pas ? Une de ces photos, comme il s'en est fait des pléthores en Afrique, de femmes nues, type humain, voilà, c'était type humain, donc c'est vraiment photographié, parce qu'après, c'est après que j'ai compris d'ailleurs, est-ce qu'il est photographié sur les quatre faces ?
Ah oui.
Ben oui. Donc en fait,
oui, c'est une étude.
Mmh. Moi au début, je me suis dit, ouais, l'arrière-grand-père, il a juste aucune imagination. Il a posé l'appareil et puis il s'est dit, bon, alors qu'est-ce que je vais lui demander ? En fait, je sais pas très bien. Donc un côté, non. En fait, c'est vraiment une étude. Donc dans sa tête, il fait un document peut-être pour le musée de l'homme. Le cadrage, effectivement, elle tient pile poil dans l'image, mais exactement comme dans les herbiers, quoi. Mais tout ça. C'était juste effectivement sur le linteau de cheminée de membres de ma famille. Et on passait devant, c'était une photographie d'art. Autre chose, c'est que cette jeune femme est très jeune. Donc on se pose la question, est-ce qu'on le montre au spectateur ? Marisa, l'image la choquait beaucoup plus. Donc elle me pose la question, comme dans le spectacle. Bon, bah, est-ce que vous montreriez cette image si c'était votre arrière-grand-mère, bonne maman, etc. Et on se dit, bah, on va poser la question au spectateur.
Oui.
Donc, en fait, on met la photo dans une enveloppe et on dit, ben voilà, Marisa décrit la photo et puis on va voir ce qu'ils disent. Et ben là, on s'est rendu compte que mais c'était incroyable les réactions des navets qui étaient en pleurs.
En fait, encore avec Charles Di, parce qu'il a été vraiment important, Charles Di me dit, écoute Marisa, tu es en colère, mais tu te rends compte, c'est tellement formidable ce que fait Stéphane. Attends, tu te rends compte, voilà, il pourrait, personne n'en parle, il pourrait juste ne pas en parler. Et voilà, là au contraire, c'est super important ce témoignage. Et ça dénote d'une remise en question, etc. etc. Et là, je me mets super en colère en disant, non, on ne va pas commencer. C'est-à-dire que la pièce n'est pas encore finie d'écrire, qu'on va commencer déjà à arriver à un consensus de tout le monde est gentil, c'est super, merci pour tout. J'ai dit, moi, si c'est ça, ça ne va pas du tout. Et je n'ai pas du tout envie de faire ça. Quelques jours après, on a revu Charles qui m'a dit « Mais oui, c'est vrai. Et tu as raison, voilà, il y a un dissensus et c'est ça qu'il faut exprimer. Et cette histoire de photo est un levier, en fait. C'est un levier par rapport à ça, exactement. Des choses qui sont ressenties dans sa chair, à savoir que avec toute l'écoute et etc. que Stéphane a, dans sa chair, il ne souffre pas de pouvoir montrer cette photo, alors que dans ma chair, c'est extrêmement douloureux et impossible.
Je trouvais hyper intéressant dans la pièce, c'est pour ça que je me suis appesantie sur ces divergences et le fait qu'elles soient volontairement montrer aux spectateurs et aux spectatrices, parce qu'il y a justement un refus de chercher à tout prix un consensus, en tout cas d'en créer un artificiel juste pour la beauté du geste. Ça pose la question pour moi de la colère, de la place de la colère dans nos sociétés contemporaines très civilisées, et notamment de la colère des, j'utilise des mots comme ça avec des guillemets, mais des minorités, c'est-à-dire qu'il y a des colères qui sont plus légitimes que d'autres. Et donc, cette colère-là, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'elle a un espace dans lequel elle peut s'exprimer ? Y compris dans des espaces artistiques ? Est-ce qu'elle peut s'exprimer ? Comment elle s'exprime ? En tout cas, le personnage de Stéphane, on n'a pas à chercher à l'absoudre, ou en tout cas à faire une happy end, où voilà, il se déconstruit, et à la fin, il y a des moments où on se dit, tiens, là, il a pris conscience d'un truc, il y a des moments où on se dit, il a peut-être compris, mais il reste qui il est, et ce que vous décrivez très bien, en disant, il y a des choses qu'intellectuellement, il comprend, il y a une démarche qu'il a l'air de... On voit une évolution entre le tout début et donc on voit qu'il y a une démarche qui est engagée, mais c'est effectivement, il est possible que ce soit une compréhension plus intellectuelle qu'expérientielle et charnelle, et d'avoir gardé ça dans la pièce, je trouve ça très très fort.
Ça paraît idiot à dire, mais vous pouvez parler de dissensus et de consensus dans les mémoires familiales, il y a des tas de gens à qui ça ne pose aucun problème. C'est juste rigolo, voilà, c'est folklorique. Et ce que Charles nous a expliqué, Charles dit, c'est qu'on se raconte des histoires. Et il y a des histoires qui paraissent acceptables. Et si cette histoire, on dit, c'est comme ça, elle nous plaît bien comme ça, on vit avec, c'est ça notre passé, il est bien, quoi. On n'a pas besoin d'être tous d'accord. On doit pouvoir travailler dans le dissensus. Et ça nous paraissait important de travailler dans le dissensus. Charles, il nous a beaucoup fait prendre conscience de comment ça se transmet. Et ça nous intéressait d'une part à des tas de points de vue familiaux, mais aussi artistiques. Parce que notre boulot, c'est de raconter des histoires.
Parfois, on ne transmet rien, on a l'impression qu'on n'a rien transmis parce qu'on s'y tue. Et on se dit, voilà, c'est un secret de famille, mais j'ai rien transmis. Et en fait, on transmet le silence. Et le silence peut être un poison. Alors, la question du poison, le mot poison même, revient beaucoup dans la pièce. Elle évoque les maux de dos chroniques de votre père, dont un médecin lui a dit qu'ils étaient peut-être psychosomatiques, et lui a dit, mais bien sûr, c'est ça. La pièce évoque l'addiction et la mort de votre frère. Et vous dites, notre histoire de famille est nourrie de poison. Est-ce qu'en rouvrant la parole comme ça, vous avez l'impression d'avoir rompu la chaîne ?
On a beaucoup parlé des traumatismes, du traumatisme qui se transmet de génération en génération. Ça y est, maintenant, on peut raconter. On peut dire les choses, on peut dire la colère, on peut dire les faits. Et ces choses-là vont se transformer. Enfin, moi, voilà, c'est un peu positif. J'espère que ce n'est pas trop gnangnan, mais j'ai envie de croire à ça. Que les choses vont se dire et du coup se transformer. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de colère dans les générations suivantes, mais peut-être qu'au moins elle aura été exprimée, peut-être transformée, soit artistiquement, soit dans plein d'autres choses. Et en tout cas, voilà, c'est ce que j'espère.
Très concrètement, comment s'est passée l'écriture de la pièce ? Parce que c'est une pièce qui a été écrite entre un travail, comme on peut l'imaginer, d'écriture de deux comédiens qui sont ensemble et qui disent « Tiens, on va écrire ça », et un travail d'enquête.
Au tout début, on ne voulait même pas faire un spectacle. On était juste en train d'échanger des informations sur nos familles respectives. Et puis après, on a eu une commande de la revue Éclair, donc la compagnie que je dirige avec Corinne Miret, du Théâtre de la Poudrerie à Sevran, pour faire un spectacle sur le thème de la rencontre. Ah, ça tombait bien. Plutôt que d'aller au Diable Vauvert chercher des informations, on va se dire que finalement, on peut trouver toutes les informations qu'on veut en Seine-Saint-Denis et plus spécialement à Sevran. Et puis, on est allé voir... Marisa avait entendu parler d'un groupe de tirailleurs sénégalais qui défendent leurs droits. Donc, on est allé les rencontrer. Donc, en fait, on a fait l'enquête comme ça. Et on a accumulé des informations. Et même les rencontres. La première interview qu'on a fait, c'était parce qu'il y a les deux côtés. Donc, il fallait bien qu'on rencontre d'anciens colons. On rencontre chez un homme qui a une maison avec des masques africains comme s'il en pleuvait. On a plein de divergences avec Marisa. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout la même manière de faire les interviews. C'est-à-dire, moi, quand quelqu'un dit n'importe quoi, je m'en fous. Et donc, on a eu droit à tout. On a eu droit à tout un discours d'anciens colons qui nous expliquaient que c'était formidable. Grâce à la France, ils parlaient tous la même langue. Parce qu'autrement, comment ils auraient fait les Africains ?
Comment ils auraient communiqué ?
Non, je ne me rappelle plus tout, mais effectivement, ça ne s'arrêtait plus. Puis plus ça allait, plus c'était horrible, en fait. Il était atroce. Et donc, moi, je suis passée, j'ai oublié, en fait, qu'on était en train de travailler. Et je commence...
Marisa, elle a sorti les flingues.
Voilà, j'ai commencé à l'agresser. Mais ça ne le dérangeait pas, parce qu'en fait...
Pas
que c'est le cas pour tout le monde, mais... Parfois, ce genre de personnes aiment bien faire un peu de provocation aussi. Donc, finalement, plus je lui posais des questions en étant toute rouge, tremblante, et plus il était ravi, finalement.
En fait, c'est juste mesurer le niveau de souffrance qui n'est pas du tout le même. Et Charles dit, donc, avait pas mal résumé ça, c'est-à-dire... là, il parlait peut-être des personnes, mais aussi des familles. C'est-à-dire, d'un côté, il y a de la souffrance... Et de l'autre, de l'embarras. C'est pas tout à fait la même chose. Je revendique l'embarras, oui, évidemment. C'est embarrassant au sens strict du terme. C'est le truc qu'on vous a mis dans les bras. Mais
c'est encombrant, c'est pas pour le poser, on n'arrive pas à le transporter.
C'est pas quoi en faire, vous voulez pas le prendre. Je pense qu'il y a un moment de génération où Charles avait cette métaphore, c'est-à-dire le secret de famille, c'est un paquet. Dans lequel on enferme un truc au niveau des arrière-grands-parents. Et puis, il y a une génération, ils savent ce qu'il y a dans le paquet. Et puis, ils le donnent, mais ils le ferment. Ils le donnent à la génération suivante. La génération suivante, ils savent qu'ils ont le paquet, ils savent qu'il y a un truc dedans, mais ils savent qu'il ne faut pas l'ouvrir. Et puis, il y a encore une autre génération, ils l'ont. Mais ils savent même pas s'il faut l'ouvrir, pas l'ouvrir, ni ce que ça recouvre exactement. Et puis, à un moment, il y a forcément, ou pas, parce qu'il y en a, ils vont prendre le paquet, ils vont dire, bon, il fait chier, c'est un truc de l'arrière-grand-père, je le mets à la poubelle, on n'en parle plus. Et puis, il y en a qui se disent, bon, mais qu'est-ce qu'il y a dedans ? Et c'est là que c'est un peu œuvre de salubrité, c'est-à-dire, on dit « Ah bah oui, ah bah oui, ah oui, ah, oh, bah, c'est vraiment pas terrible. » Ou « Ah bon, mais c'est que ça. » Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a tout dans l'humanité, mais que le colonialisme, c'est quand même pas le paquet le plus luisant qu'on ait en France. C'est un grand moment quand même de laideur aussi, et de bêtise. Voilà.
Ce que vous dites sur la souffrance d'un côté et l'embarras de l'autre me semble très juste. Et je trouve que le seul fait de le poser, en fait, comme ça, avant de se demander si c'est bien ou pas bien, mais juste de poser en disant, en fait, ce que je ressens, c'est de l'embarras. J'arrive à percevoir peut-être que ce que ressent la personne en face, c'est de la souffrance. Et j'ai le droit de dire que je suis embarrassée sans amoindrir la souffrance de la personne qui est en face. Et je fais le pont, pour tout vous dire, avec les interventions en entreprise que je fais, où on parle de microagression, on parle de racisme ordinaire, etc. Et très vite, les gens se sentent accusés. Ah, mais t'es en train de dire que je suis raciste? Non, je suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire que le comportement que tu as eu là, il relève de stéréotypes racistes, et je suis en train de dire qu'il crée une souffrance chez la personne en face. Maintenant, j'entends que tu veuilles pas entendre ça, parce que ça fait pas plaisir. Il y a de l'embarras là. Mais est-ce que tu arrives à entendre la souffrance là-bas? Est-ce que tu veux bien qu'on parle de ton embarras? Et à partir de là, on commence à travailler. Mais cette première étape, on a tendance à la sauter. Il y a ce passage dans lequel vous vous demandez ce dont vous avez hérité.
Souvent, je me demande de quoi ai-je hérité de mon papa, outre l'appartement que j'habite. Quels sont les traits de caractère que nous avons en commun? Bon, une forme de mort qui me fait regarder de haut les rares locataires que je croise dans les escaliers de l'immeuble familial. Et puis, peut-être aussi un goût du voyage mêlé à la peur de l'inconnu, la peur de ce que je ne maîtrise pas. Et c'est un travail de me défaire de cette peur. Ce n'est jamais fini. Car, comme disait ma mère, c'est inquiétant.
C'est marrant, j'ai pas exactement la même version.
En fait, je l'improvise un peu tous les soirs, donc ça change pas mal. Voilà.
Voilà. Vous êtes géniaux. J'adore.
C'est vraiment la question, quoi. C'est-à-dire, dire théoriquement je suis pas raciste, oui, bon, oui, bien sûr, bien sûr. Je suis pas raciste, ouais. En fait, je pense que c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Et qu'on a plein de trucs qu'on a intégrés. Je trouve que c'est extrêmement prétentieux, et penser aussi qu'on puisse en être vacciné.
Ça y est, c'est bon, je me suis soigné.
Oui, c'est ça.
C'est fini.
Ouais, super, j'ai fait le spectacle avec Marina.
Stéphane, je vais l'emmener en entreprise. Non, mais parce que moi je commence mes ateliers comme ça, en disant c'est pas une question de bonne ou de mauvaise personne. Moi, je suis pas là pour rendre la justice, mais juste se poser la question et se dire, en fait, cette femme là, si elle avait pas ses cheveux ci, mais ses cheveux là, est-ce que je l'apercevrais exactement de la même manière? Juste se demander ça et se dire, maintenant que je le sais, je suis même pas obligée de le dire aux autres, c'est quand même génial. Mais juste maintenant que je le sais moi, que selon comment elle est coiffée, je l'aperçois pas pareil, la prochaine fois que j'ai à prendre une décision qui a un impact sur un autre être humain, je fais attention. Et que je vois que cette personne a cette coiffure-là, je fais attention, en fait. De grosses questions. Comment est-ce qu'on se détache et comment est-ce qu'on trouve le juste milieu, justement, entre le côté c'est mon histoire et en même temps, c'est pas moi, ça a forcément, peut-être déteint sur moi, en tout cas, je me pose la question, mais j'ai envie d'exister en dehors de ça, ou en tout cas, ne pas être totalement déterminée par ce que mon aïeul a fait il y a un siècle. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez... Alors, pour les auditeurs et les auditrices qui n'ont pas la joie et le plaisir d'assister à cet enregistrement, je suis en train de poser la question à Stéphane et Marisa le regarde avec un énorme sourire, genre hey, chacun sa merde, là c'est toi qui réponds.
Bon courage.
Non mais attends, c'est juste pas écrit sur mon front que mon arrière-grand-père est colon, donc je bénéficie d'une forme d'anonymat. Non, mais après, je pense qu'il y a vraiment une histoire de salubrité, c'est-à-dire, mais que c'est pas, non, c'est pas réglé. Je pense pas que le théâtre ait une fonction réellement thérapeutique. Mais peut-être pas pour les artistes. C'est l'histoire éternelle du clown. Hein. Les clowns, ils expriment effectivement une sorte d'émotivité, etc. Mais ça en fait pas des gens heureux et à égolard toute la loin de là. Moi, je fais pas ça pour aller mieux. Je fais ça parce que puis à un moment il y a une nécessité aussi, et aussi l'histoire a envie d'être racontée. C'est ça que je veux dire. C'est pas uniquement nous. C'est une histoire. À un moment, c'est elle qui a envie d'être racontée.
Oui, c'est vrai qu'il y a, il y a un côté un peu jaillissement, on y croit ou pas, mais moi je suis en tout cas très sensible et très touchée par le fait que vous disiez que parfois les histoires ont envie d'être racontées, donc elles trouvent un moyen de jaillir et de surgir dans une famille. Et en ce qui vous concerne, en tout cas dans la pièce, vos deux parents meurent à un mois à peine d'intervalle, et chacun ayant donc eu un peu de temps pour interroger vous, son père, Marisa, et vous, Stéphane, votre mère, quoi. Donc c'était peut-être aussi le moment. Marisa, vous pouvez compléter si vous voulez ce qu'a dit Stéphane, mais moi j'avais aussi la même question pour vous, alors évidemment avec un prisme différent, mais j'avais la même question pour vous, qui est dans quelle mesure est-ce que d'avoir joué, d'avoir écrit cette pièce, d'avoir mené cette enquête, ça vous permet, mais peut-être que c'était déjà le cas avant, hein, d'exister autrement que comme étant le fruit de cette histoire-là, une histoire effectivement pas toujours très reluisante, en tout cas côté français.
La colère, elle reste quand même à un certain endroit. Il y a une chose qui est vraiment importante, c'est la question de l'héritage. Les choses sont en train de se dire, en train de se faire, et ça fait vraiment du bien, parfois avec des gens très talentueux, artistiquement ou autres. Mais par contre, il y a une chose qui reste, c'est que l'héritage, il est resté aux mains de... aux mains de ceux qui ont fondé les colonies. Enfin,
et là, quand on parlait d'héritage, je parlais de la partie matérielle, financière.
Ben oui, ce qui se passe là actuellement dans nos quartiers, ben voilà, on est 85% d'enfants de gens qui sont issus de pays colonisés et pas forcément socialement au top. De la forme, pour parler de la famille de Stéphane et Stéphane, il y est absolument pour rien. Effectivement, il en parle dans le spectacle. Ils sont il y a un immeuble qui a été acheté par
l'arrière-grand-père et qui est un immeuble familial aujourd'hui.
Donc ces choses là, elles sont aussi importantes dans l'intime. Ça rejoint ce que vous disiez au départ, c'est que en fait il y a un lien très fort, enfin un parallèle très fort entre cette histoire intime d'héritage qui hérite, qui n'hérite pas, avec l'histoire plus large. Et je pense que ça, on n'en est pas sorti. On a été soigneux de ça, je pense, avec Stéphane dans l'écriture, de toujours faire des ponts entre cette histoire coloniale. Bon, mais attendez, on vous raconte pas ça parce que c'était une histoire horrible, mais qui est complètement terminée. On vous raconte ça parce que ben voilà, les mineurs isolés à la rue, les tirailleurs sénégalais qui n'arrivent pas à toucher leur pension, et les terres évidemment agricoles qui n'appartiennent pas la plupart du temps à des Africains, enfin etc. évidemment
oui, il y a effectivement tous ces ponts et ces allers-retours entre l'histoire des ancêtres, c'est ce que je disais, on n'y était pas, bon, on en hérite. Et puis une histoire qui est très actuelle, hein, les tests osseux qui sont pratiqués sur les mineurs isolés pour savoir s'ils sont réellement mineurs ou pas. Vous allez interroger une dame qui tient une boutique de vente de chocolat et de cacao à Sevran. Vous l'interrogez sur les cacaoyères et la manière dont elles sont gérées aujourd'hui en Afrique, etc. Et donc ça permet effectivement de faire des ponts pour expliquer aussi pourquoi on va remuer comme ça, expliquer qu'il y a encore des ramifications aujourd'hui, c'est important, qui sont des ramifications émotionnelles, affectives évidemment, mais aussi matérielles. Moi, je me rappelle très bien ce que j'ai ressenti au moment où, dans la pièce, Stéphane, votre cousine, vous écrit et vous dit « Il faut que nous allions ensemble voir un notaire ». Et cette phrase-là qui tombe comme ça, comme un couperet. Et moi, je suis là, oulala, ça va chauffer. Parce qu'effectivement, je perçois toutes les questions. Là, on est sur du sonnant et trébuchant, mais qui sont liées à cette histoire-là. Et je dois dire que j'étais quand même en empathie forte avec vous quand vous racontez les cauchemars qui commencent à vous assaillir en disant, je fais des cauchemars de cette horde de cousins africains sortis d'un peu partout qui vont arriver, qui vont déterrer bon papa, qui vont faire des tests génétiques et qui vont réclamer leur part d'héritage. Ça pose aussi la question effectivement de la responsabilité d'être celui, enfin, le premier ou la première qui va aller déterrer des trucs, vous l'avez bien dit, que personne n'avait envie de voir ou en tout cas de discuter. Est-ce que ça a été, est-ce que ça a été le cas dans votre famille? Est-ce qu'on vous a un peu reproché d'être l'empêcheur de tourner en rond qui est allé écrire une pièce et laver une partie du linge sale en famille? Vous aviez déjà commencé avant de toute façon.
Oui, c'est ça. Merci.
Non, mais... En fait, c'était sa 34e pièce. Ils n'en peuvent plus dans sa famille. Ils l'ont sorti de l'immeuble.
Certains cousins sont venus voir la pièce. D'autres... Alors, il y a eu un truc qui a été très, très pratique. C'est qu'il y a eu le Covid. Et donc, à un moment, on a fait des transmissions du spectacle par Internet.
Ouais,
alors là,
d'accord.
Ça leur permettait d'aller le voir sans me voir. C'était très content. Quand on est allé chercher au Musée de l'Homme le squelette de Bon Papa, qui n'est pas le squelette de Bon Papa, mais le squelette que Bon Papa a rapporté du Gabon. Mais pendant des générations, tout le monde est allé voir ces squelettes en disant « Ah oui, c'est comme ça, bah oui, voilà. » Et sans jamais se dire « Ouais, attends, on viendrait dans le cimetière d'Argenteuil déterrer un mort, et puis on l'amène, et puis on dit « Ah ben, un squelette d'Européen !» ouais. au Gabon, on dit « Ah mais attendez, il y a un truc qui ne va pas, quoi !» Donc ils sont très embarrassés, ils l'ont ce squelette évidemment, mais en fait dans le spectacle on dit qu'on a vu des photos, mais on n'a même jamais vu des photos, on n'a même jamais pu en approcher. Pourtant on a fait jouer tous les leviers parce que l'enquête aussi nous intéressait, c'est on voulait savoir ce qui allait se passer, on est tombé vraiment sur un silence absolu. Ça c'est beaucoup trop embarrassant.
Donc le squelette existe mais vous n'avez pas pu le voir?
Non.
Ah. C'est le versant institutionnel de l'embarras dont on parlait tout à l'heure. J'ai une question pour vous, Marisa, parce qu'il y a ce passage, et je veux savoir si c'est OK pour vous de le lire.
Un jour, j'ai dansé dans un spectacle. J'avais comprimé la masse de mes cheveux crépus dans un filet à chignon. Après la représentation, ma mère m'a embrassée et m'a dit « Tu sais, quand tu es sur scène, on ne voit pas du tout que tu es noire. » Ma mère n'était pas raciste. Enceinte à 20 ans, elle a jeté son mariage avec un étudiant africain à la figure de ses parents. Cet acte de liberté et de résistance devait effacer les lourdeurs d'un passé colonial qu'elle connaissait assez mal. Ma maman, c'est l'universaliste, mais ça n'existait pas le racisme en fait quand on était petit. Avec mon frère, ça n'existait pas parce que son papa était communiste, elle était de gauche, elle n'était pas raciste. Et voilà, enfin, ça rejoint tout ce qu'on se dit. Cette chose-là, elle ne l'avait pas vécue dans sa chair. Et donc, et comme mon père, en plus, ils sont connus vraiment au moment de l'indépendance, en fait. Mon frère est né en 61. Et donc. Je pense que c'était un endroit de où je pense les intellectuels africains étaient un endroit de fierté, enfin d'avoir envie de clamer une fierté, et donc pas en plainte.
Je n'ai pas vu venir ce passage sur votre mère parce que comme dès le début le décor est planté sur une, je vais mettre ça avec des guillemets, un parallélisme entre Stéphane, votre famille blanche, et Marisa, votre famille ou votre ancêtre, en tout cas cet ancêtre-là noir, on est tout de suite du côté de votre famille paternelle, avec ce nom Nyandao dit Simon. Je ne l'ai pas vu arriver. Comment il est arrivé dans l'écriture ?
Je pense que pour moi, c'était une évidence. Après, on aurait pu aussi ne pas le garder. Mais à partir du moment où on racontait cette histoire de façon un peu intime, je trouvais difficile de ne pas raconter cette chose-là. Ma mère était sûre, en fait, que ni mon frère ni moi ne souffrions du racisme. Ça, elle en était sûre. Alors, des fois, elle disait, oui, peut-être plus ton frère, parce que... il a la peau plus foncée, puis lui, il a vécu là-bas, et puis c'est un garçon, mais toi, non. Voilà, toi, non. Elle en était sûre. Et donc, j'en étais sûre aussi, en fait.
Évidemment.
Le truc qui est important, c'est l'histoire du corps. C'est-à-dire, le corps est éloquent, hein, généralement.
Et je pense que les enfants métis avec leur mère, si elles sont blanches, après j'imagine avec leur père aussi, je ne sais pas. Mais après, il y a ce côté aussi de maternage. On n'a pas le droit de se sentir racisé ou souffrant, parce qu'en fait, le fait de le ressentir, et de le dire, surtout de l'exprimer, ça ferait du mal en fait à la personne qu'on aime, qui nous élève et qui est sûre que ça n'existe pas. Donc ça a vraiment... comme plein d'autres choses, mais ça rajoute peut-être un couvercle à un endroit, et quand ça sort, je pense que la colère qu'on peut ressentir ado ou plus tard, elle vient de toutes ces choses qu'on n'a jamais pu exprimer en fait.
Comment s'est passée la rencontre entre cette pièce et le public, les publics, parce que vous l'avez joué donc à Sevran, c'était une commande de Sevran, et avec l'idée de la jouer au plus près des habitants. Il y avait ce thème de la rencontre. C'est une pièce qui a été écrite aussi pour être jouée en appartement. Comment se sont passées ces premières rencontres-là avec le premier public? Et puis bon, après, elle a voyagé, elle a fait plein de choses, elle a fait des festivals féministes, etc.
Nous-mêmes n'entendions pas le spectacle de la même manière, suivant si on jouait dans des familles africaines ou pas.
Ce qui nous a étonnés, c'est... le nombre de témoignages qui venaient après le spectacle, c'est-à-dire des gens qui venaient nous raconter leur vie, enfin, et surtout des jeunes femmes qui venaient raconter leur expérience à Marisa.
Ça devait vous faire à la fois d'autant plus plaisir, d'autant plus bizarre que y avait ce contraste avec le moment où vous aviez essayé de recueillir des témoignages en amont et où personne ne s'était manifesté en fait. Mais on réagit peut-être différemment quand d'autres personnes se sont livrées. Il y a un truc de « ok, il l'a fait, elle l'a fait, donc je peux y aller aussi ».
C'est le fait qu'on se soit livré, et encore une fois, comme disait Stéphane, il y a aussi que, je pense que effectivement moi... C'est beaucoup des femmes plus ou moins jeunes qui venaient me confier leurs histoires très intimes. Et je pense qu'elles n'avaient pas forcément envie de les raconter à Stéphane.
Moi, j'avais droit aux anciens colons.
Chacun son public.
Chacun sa croix. donc voilà. Et en plus, qui était persuadé que j'étais en connivence...
Ça, c'est toujours bon, ça. Et du coup, les gens se permettent de dire des trucs. À la toute fin de la pièce, apparaît un nouveau personnage, une voix qu'on n'avait pas entendue jusqu'ici. Est-ce que vous m'autorisez, Marisa, à lire une partie de ce monologue?
Bien sûr.
Oui. Ok. C'est moi. Je te fais une visite. Tu m'agaces, ma fille, au point que j'ai dû faire ce long voyage depuis l'endroit où j'ai posé mon esprit. Mon nom à moi, écoute, c'est Bojo et Jessie. Tu as trop parlé, tu parles tout le temps. De mes enfants, de moi, mais qu'est-ce que tu sais? Rien. Tu as cru quoi? Que j'ai été cette fille de 16 ans qui se fait prendre par un blanc, accouche, reste seule et laisse ruiner sa vie? C'est comme ça que tu racontes mon histoire? Tu veux me faire honte? J'ai acheté des pagnes, beaucoup de pagnes. J'ai vendu, beaucoup. Des bonnes sœurs sont venues, elles ont dit « Donne-nous ton fils ». Il ira au foyer des métis. J'ai dit non, l'enfant reste avec moi. J'étais moquée, seule, mais je n'avais pas honte. On ne manquait de rien. Ne me fais plus jamais honte. Parle, mais ne raconte à personne que Bojo et Jessie est venu pour se plaindre. On s'arrête là? Attendez, c'est pas du tout fini. Là. Vous pensez que vous allez partir comme ça? Non. On laisse effectivement... Bojo et Jessie, ce personnage, clore la partie spectacle, mais il se trouve qu'il y a une question rituelle dans ce podcast et que ce serait dommage que vous y échappiez. Donc, je vous la pose à l'un et à l'autre par rapport à ce spectacle, notamment, mais peut-être plus généralement ces dernières années, autour du spectacle. Qui êtes-vous devenus l'une et l'autre?
Tu viens de faire parler mon arrière-grand-mère, je vais répondre par rapport à elle. Voilà, je pense que je suis devenue juste cette arrière-petite-fille qui cherche son chemin et que le chemin jusqu'à elle est encore en cours et assez centrale, bien plus que ce que j'imagine à chaque fois. C'est-à-dire, il y a plein de moments où je me dis, bon, bah, ça y est, c'est écrit. Après, j'en ai écrit, j'ai fait un voyage, je suis allée chercher la maison. Bon, bah, voilà, ça y est. Et en fait, elle revient toujours. Donc, elle est centrale. Donc, pour le moment, je suis l'arrière-petite-fille de Bojo et Jessie.
Ok.
Oui, alors c'est une question qui met un peu au pied du mur. Mais en fait, grosso modo, je suis devenu celui, je suis celui qui raconte cette histoire, en fait. Et qui la raconte pas seul. Et c'est pas complètement anodin. Je pense qu'effectivement, il y a des choses qu'on fait seul, il y en a d'autres qu'on a la chance de pouvoir faire à plusieurs. Peut-être ça peut être des pistes sur des manières de faire. Il y a des choses peut-être dont on se sort plus facilement à deux, à trois, à beaucoup que seul.
Merci pour quelqu'un qui était stressé par la question. C'est limpide comme réponse. Merci beaucoup. Merci vraiment, vraiment beaucoup à vous deux. Merci à Corinne Mireille, évidemment, qui a facilité la rencontre.
On n'en parle pas, mais...
Et qui a fait la mise en scène.
Elle fait partie des facilitateurs, avec Charles Di, de la transmission de cette histoire, de l'écriture et de la transmission de toute cette histoire.
Donc, un grand merci à Corinne Miret. Et voilà, merci beaucoup. Et puis, pour les auditeurs et les auditrices, je vous enjoins, je vous recommande, en vrai, je vous supplie d'aller voir cette pièce, parce que, comme on l'a très bien dit, c'est une histoire qui a envie d'être racontée, qui a envie de se raconter. Et vous, merci d'en être les passeurs et passeuses. Donc maintenant, il faut que nous, on aille l'écouter pour la passer aussi. Merci beaucoup. J'espère que l'épisode vous a plu. Vous pouvez vous abonner à la newsletter, mais vous pouvez aussi me contacter pour une conférence ou un atelier dans votre entreprise. Ce sera comme ici, c'est-à-dire apaisé, nuancé, constructif. À bientôt !